Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Toutes ces femmes dans la rue, toutes ces femmes.
Bonjour à tous et à toutes. Il y a encore beaucoup trop d'hommes dans les rues et sur les places de Bruxelles. Ou plus précisément, seuls 4% de ces lieux portent le nom d'une femme. C'est le constat effectué par un collectif féministe, ou plutôt la collective, comme il souhaite s'appeler. L'association organise des balades pour sensibiliser le public à cette problématique et rendre leur visibilité aux femmes oubliées, Lakshmi Lotha.
Et vous savez ce qu'on dit, qui est plus inconnu que le soldat inconnu, c'est
sa femme,
exactement, et c'est un peu ce qui se passe ici.
Nous sommes devant la statue de Gabrielle Petit. Hommage à cette femme, grande figure de la résistance belge durant la Première Guerre mondiale. Mais la statue n'est pas très imposante ni particulièrement mise en valeur. Un hommage trop simple pour les organisateurs de la balade féministe, Simon Rakowski.
Ce monument est assez invisible pour un Bruxellois ou Bruxelloise, mais il y a eu une sorte de dépersonnification de Gabrielle Petit par une envie de la rendre symbolique de toutes les femmes, en fait, et pas seulement pour elle-même. Alors que quand on voit Albert Ier, c'est seulement pour lui-même. Ou alors on se rend compte que la plupart des statues, déjà, c'est des hommes. Et quand c'est des femmes, on va utiliser le corps de la femme comme allégorie.
Dans la rue de l'Étuve, les organisateurs racontent l'histoire de nombreuses dentelières obligées de se prostituer pour survivre. Lors de la balade, des noms d'artistes, d'historiennes, de scientifiques belges sont cités, mais aussi étrangères. On nous apprend ainsi que Rosaline de Franklin, sans qui la structure de l'ADN n'aurait pas pu être découverte, n'a pas reçu de prix Nobel, contrairement à ses collègues masculins. Les guides rappellent également que la première épouse d'Albert Einstein, Mileva, fut une brillante physicienne, mais que l'histoire l'a oubliée. L'association milite pour que des noms de femmes soient choisis lors de l'inauguration de nouvelles plaques de rue. Elle rebaptise également assez souvent des noms d'amphithéâtres à l'université. Action citoyenne pour que les femmes ne soient plus invisibles.
Une rue portera peut-être son nom un jour, celui de Victoria Marinova, cette journaliste bulgare assassinée samedi dernier à Russey, dans le nord du pays. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors, un suspect a été arrêté mardi en Allemagne. Rien n'indique pour l'instant que la mort de la journaliste soit liée à ses activités professionnelles. Pourtant, Eve, les soupçons et l'indignation demeurent en Europe entière.
Oui, d'abord parce que Victoria Marinova, qui dirigeait la petite chaîne de télévision régionale TVN, venait de lancer un magazine d'investigation télévisé, Détector, censé enquêter justement sur les faits de corruption dans son pays. Mmh. Elle avait d'ailleurs reçu en septembre deux journalistes, auteurs de révélations fracassantes sur le détournement massif de fonds européens par l'une des plus grosses entreprises en bâtiment du pays. La Bulgarie, considérée comme l'un des pays les plus corrompus d'Europe, se situe au 111e rang mondial du classement établi par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, ce qui en fait le pays de l'UE le plus mal placé.
Alors, en attendant d'en savoir plus, cet événement intervient alors que l'Europe se souvient du meurtre il y a pratiquement un an de Daphne Caruana Galizia.
Autre pays, autre journaliste, autre mode opératoire, cette fois-ci dans un style plus mafieux, qui ne fait aucun doute sur le mobile des meurtriers. La journaliste d'investigation maltaise, connue pour ses enquêtes ambitieuses, son combat pour dénoncer la corruption, avait été sauvagement assassinée dans l'explosion de sa voiture. Depuis son assassinat le 16 octobre 2017, donc, l'enquête judiciaire avance difficilement. Trois hommes ont été arrêtés au mois de décembre dernier, mais pour l'instant, rien ne permet de les relier aux commanditaires de l'assassinat.
Pourtant, de nouveaux éléments, récemment apporté au dossier permettent de relancer l'enquête.
Oui, vous vous souvenez peut-être du projet Daphné, ce collectif de journalistes européens mis en place au lendemain du meurtre et bien décidé à aller au bout de l'enquête, dirigée par la journaliste maltaise. Et bien, selon ce collectif, de nouveaux faits permettent aujourd'hui de relier justement l'un des hommes du milieu maltais arrêté l'année dernière au ministre de l'économie lui-même, sachant que ce dernier avait porté plainte déjà pour diffamation contre Daphné Caruana Galizia quelques mois plus tôt.
On se souvient également, hélas, d'un troisième journaliste assassiné cette année en Slovaquie. lui aussi enquêtait sur des faits de corruption.
Jan Kuciak, 28 ans, a été assassiné en février, vous l'avez dit, avec sa compagne, d'une balle dans la tête à leur domicile. Il enquêtait en tant que data journaliste, journaliste analyste de données pour le site actuality.sk sur différents faits de corruption, là aussi dans son pays, et s'était récemment intéressé aux affaires de la mafia calabraise. Là aussi, 7 mois après, l'enquête a produit ses premiers résultats, puisque la commanditaire a été identifiée la semaine dernière. Il s'agirait d'une traductrice que de nombreux observateurs imaginent avoir davantage joué un rôle d'intermédiaire et qui aurait payé 70 000 euros pour faire taire définitivement le journaliste. Elle travaillait notamment pour un grand homme d'affaires qui avait à plusieurs reprises menacé le journaliste de représailles sans que la police n'intervienne.
Alors finalement, en Europe en 2017, ce sont pas moins de 7 journalistes qui ont été tués.
Depuis 2017, oui. Si l'on ajoute aux 3 précédents meurtres, celui de la Suédoise Kim Wall, assassinée lors d'un reportage effectué à bord d'un sous-marin, mais aussi Dimitri Pokpov et Nikolai Andrushenko, 2 journalistes russes, ainsi que le britannique Saïd Karimian, considéré comme un opposant au régime iranien, tous, sauf la Suédoise Kim Wall, avaient comme point commun de faire de la corruption leur principal objet d'étude.
Donc le bilan est bien lourd en Europe, hein, du côté des journalistes d'investigation, et on est en droit de se demander si la liberté de la presse n'est pas tout simplement en train de régresser en Europe.
C'est assurément inquiétant, notamment parce que ces assassinats de journalistes, qui enquêtent pour la plupart sur des utilisations frauduleuses de subventions européennes, ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Les cas les plus sanglants qui font la une des journaux, d'après les informations de l'organisation Reporters sans frontières, les tentatives d'intimidation et de menaces vis-à-vis des journalistes sont omniprésentes et quotidiennes. RSF constate aussi une érosion institutionnelle de la liberté de la presse, c'est-à-dire que ce sont dorénavant les pouvoirs en place qui tentent de faire peser une chape de plomb sur les médias de leur pays, comme en Hongrie par exemple ou en Pologne. Une érosion, constate Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, qui va de pair avec une certaine montée de la haine et de la violence.
Merci Yves Minot, à la semaine prochaine dans Accent d'Europe.
À la semaine prochaine.
C'est le paradis des estivants, les 700 îles croates, dont une cinquantaine seulement est habitée. Quant à y vivre toute l'année, cela devient de plus en plus difficile. En partie à cause de ce tourisme de masse, mais aussi parce que les services publics disparaissent. Des Iliens ont décidé de réagir en créant le mouvement des îles, qui permet de développer des solidarités nouvelles. Le reportage de Laurent Gélin.
Durant l'été, les rires des enfants se mêlent aux musiques des cafés du port de Silba. Situé dans l'archipel de Zadar, d'une superficie d'à peine 15 km carrés, l'île ne comptait officiellement que 292 résidents permanents au recensement de 2011. Mais ils sont sans doute à peine plus d'une centaine en réalité, alors que la population atteint 5 à 6 000 personnes durant les mois estivaux. Une affluence qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes logistiques, comme l'explique Paola Bolfan, 24 ans, élue à la Miesna Zajennica, le conseil de quartier, la seule instance représentative de l'île.
Nous n'avons pas d'eau potable. Nous avons des citernes sous les maisons qui se remplissent avec de l'eau de pluie. Et durant l'été, quand il n'y a pas de pluie, des bateaux amènent de l'eau depuis Zadar et remplissent de grosses citernes installées sur l'île. Sans eau, il est impossible de cultiver quoi que ce soit. Les îles pourraient pourtant être autonomes. Nous pourrions avoir de l'eau potable, de l'énergie solaire. Nous pourrions vivre sans dépendre des villes. Mais nous n'avons pas l'argent pour faire ces aménagements. Nous devons nous porter candidats à des financements européens. Mais qui va pouvoir monter ces dossiers ?
Il faut plus de 4 heures de ferry aux habitants de Silba pour rejoindre le continent. La continuité territoriale qui devrait garantir aux populations insulaires un accès aux services publics est ici une illusion. Silba dépend administrativement de la ville de Zadar, mais les financements manquent, tout comme la volonté politique de développer les îles, tout juste bonnes à accueillir des touristes durant l'été. Ancien officier de radio de marine, Miodrag est le dernier berger de Silba. L'hiver, la vie y est très difficile.
Vous pouvez marcher des jours sans voir une seule personne vivante. Vous ne sentez que le vent. Tous ceux qui viennent l'été ici, ils prennent juste l'argent et ils s'enfuient durant l'hiver. Les gens qui louent des appartements ne sont pas de Silba.
Miodrag fait paître ses chèvres et ses brebis dans les bois touffus qui entourent le village. Mais il doit transporter lui-même ses fromages en ferry pour les vendre sur les marchés du continent. L'homme ne cache pas sa nostalgie d'un autre temps.
Quand j'étais enfant, il y avait ici une coopérative qui faisait du fromage avec 2000 moutons. Il y avait aussi deux conserveries. Du temps de l'ancienne Yougoslavie, c'était bien mieux. Nous avions des connexions avec Dubrovnik, avec Split, avec Zadar, avec Rijeka, avec Pula, Trieste et Venise. Des connexions internationales. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Maintenant, nous n'avons plus rien. L'époque de la Yougoslavie socialiste est désormais bien lointaine. Alors pour maintenir une présence sur les îles dalmates, pour attirer de nouveaux habitants, les jeunes Iliens ont compris qu'ils devaient prendre leur destin en main. Paola Bolfan.
Les îles ne sont pas bien reliées au continent. Nous avons des problèmes avec les ferries. Nous devons régler cette question, mais nous devons aussi améliorer les relations entre les îles elles-mêmes. Tous les Iliens vivent dans leur monde, mais nous rencontrons tous les mêmes problèmes. Si vous avez une question et que vous ne savez pas comment la régler, le mouvement des îles doit pouvoir vous donner la réponse.
Le mouvement des îles, le Pokret Otoka, fédère des militants d'une vingtaine d'îles de Dalmatie. Ces derniers manifestent à Split ou à Zagreb pour demander de meilleurs services publics ou pour protester contre des projets de privatisation des côtes. La plateforme sur Internet qu'ils ont montée permet de mutualiser leurs expériences tout en communiquant efficacement en direction du public et des médias. Le succès fulgurant du mouvement a même commencé à inquiéter les hommes politiques locaux qui n'avaient jamais écouté les Iliens. Natacha milite au Pokret Otoka, elle est originaire du continent mais a décidé de s'installer à Silba.
J'ai commencé à développer un projet pour sensibiliser les gens au développement durable, à l'écologie, au recyclage, grâce à des jeux éducatifs. J'ai ensuite construit une maison en bois autosuffisante en énergie dans la forêt et je me suis lancée dans l'agriculture. Pour l'instant, je plante des câpres, je ramasse des herbes qui poussent sur l'île et je fais du pesto, de la grappa et des choses comme ça.
Grappa and things like that.
Pour que l'histoire et les traditions des îles croates survivent, il faudra inventer de nouveaux modes de développement qui ne soient pas uniquement basés sur le tourisme. Et les jeunes ont compris qu'ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur le réseau de militants du Pokret Otoka. L'urbanisme sauvage détruit chaque jour un peu plus ces perles de l'Adriatique. Mais tout n'est peut-être pas perdu.
Tu sais, moi, monde européenne, elle a pas vraiment de frontières. Son corps, c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois. Tu sais, monde européenne, à moi, elle est que pour...
L'Union européenne est complètement déconnectée de ses citoyens et vécue comme une oppression. C'est l'un des arguments récurrents des partis politiques populistes en Allemagne, en Italie et en France. Alors, qu'en est-il réellement ? Pour le savoir, Cécile de Barge est allée à la rencontre des Européens eux-mêmes dans les rues de Paris en France et de Kiel en Allemagne. Reportage réalisé avec Franziska Hensch et Sylvia Ricciardi.
Plus de 60 ans après la fondation de la Communauté économique européenne, nombreux sont les citoyens à y voir encore une part d'utopie lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, comme cette habitante de Kiel.
L'Europe, pour moi, c'est la communauté, le vivre ensemble. Et c'est aussi ne pas penser nécessairement en termes d'individus ou de nations, mais en tant qu'êtres humains qui veulent vivre ensemble et en paix.
Pour cette Italienne en voyage à Bruxelles, ce sont les principaux avantages de l'UE.
Richesse, variété, donc la diversité. Et c'est une union de diversité. C'est la chose la plus positive à laquelle on peut penser. Donc un enrichissement réciproque. C'est à ça que je pense quand je pense à l'Europe.
Autre point fort de l'Union européenne,
le potentiel économique et politique.
Ce Français d'une quarantaine d'années installé à Paris défend ardemment la politique économique de l'Union européenne ainsi que l'euro, la monnaie unique. Deux points régulièrement remis en cause par le Rassemblement national, ex-Front national en France, la Lega en Italie ou l'AFD en Allemagne pour ne citer qu'eux. Pourtant, cette force de frappe économique de l'Union européenne est souvent considérée comme un atout, même lorsqu'il s'agit de redistribuer une partie des fonds européens, explique cet habitant de Melun, en région parisienne, pour qui l'un des points les plus positifs de l'UE est le suivant.
Savoir donner un peu d'aide au niveau des autres pays. Par exemple, la France qui aide un peu les pays africains, ceux qui n'ont rien à manger et tout.
Sa réponse est peu étonnante si l'on s'en tient au dernier résultat de l'Eurobaromètre publié fin septembre 2018 et selon lequel 89% des Européens approuvent les politiques d'aide au développement dans les pays tiers. Idéal de paix, politique économique, coopération, autant de succès qui ne saurait rivaliser avec celui qui revient dans la bouche de presque toutes les personnes interrogées.
Le plus grand succès, déjà qu'on puisse voyager avec la carte d'identité entre les pays.
L'espace Schengen permet depuis 1985 la libre circulation entre les pays qui en font partie.
C'est vachement pratique en fait d'habiter juste à la frontière, on peut acheter des trucs en Allemagne. Et le fait que c'est beaucoup plus facile de juste voyager en fait, d'aller en Italie ou en Espagne même pour les vacances, ce genre de choses.
Si la quasi-totalité des personnes interrogées voient d'énormes avantages à cette liberté de circulation, certains s'en préoccupent pour des raisons de sécurité, comme l'explique cette bouchère de Melun.
Même s'il fallait un visa, même s'il fallait quelque chose, au moins vous étiez contrôlé quand vous rentriez quelque part. Mmh. On savait où vous étiez. Maintenant, c'est porte ouverte un peu à tout, donc... Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas.
Un avis particulièrement marqué chez les Français, dont 82% souhaiteraient que la lutte contre le terrorisme soit une priorité pour l'UE. Pour cette femme, la liste des reproches ne s'arrête pas là.
Le principal succès de l'Union européenne, j'en vois pas. Les échecs, l'immigration.
Pourtant, ce qui semble préoccuper le plus les personnes interrogées au cours de ce reportage, ce sont les inégalités au sein de l'UE.
Moi, je retiens le mot inégalité. Parce que dernièrement, pour moi, les États n'ont plus contribué au bien-être de la communauté.
Un sentiment partagé par cette habitante d'origine russe à la frontière franco-allemande.
C'est ça le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre immense entre le noyau, le kern de base, et ensuite tous les pays qui se sont rajoutés autour, en fait, ils sont un peu malmenés et ils vivent économiquement plutôt mal. Mais en tout cas, pour la cohésion, ce qui est France, Allemagne, Italie, je ne sais pas, mais les gros pays comme ça, ça marche bien.
L'année dernière, interrogés à ce sujet, 84% des Européens et 94% des Français estimaient que les inégalités entre les différentes catégories sociales étaient profondes au sein de l'Union européenne et un tiers y voyait encore le spectre de la crise. Des chiffres qui font parfois vaciller les idéaux européens, conclut cette Italienne.
L'un des grands échecs, c'est justement qu'en ce moment même, on ait des regains de tensions internes, des manifestations de populisme, voire d'extrémisme, et on se dit que le chemin à parcourir est encore long.
Un chemin long, un chemin fastidieux, mais qui ne doit pas être remis en cause pour plus de la moitié des Français. Des chiffres encourageants à 8 mois des prochaines élections européennes.
À Rēzekne, en Lettonie, la synagogue rénovée en 2016 est de nouveau un point d'attraction de cette grande ville de l'est du pays. Une synagogue que l'on reconnaît de loin en raison de sa couleur verte et qui a bien failli disparaître, Marielle Vituro.
C'est l'un des plus anciens édifices religieux en bois de la région balte. Depuis sa construction en 1845, la synagogue a toujours gardé cette couleur verte. Avant la Seconde Guerre mondiale, Rēzekne comptait 3500 juifs, un quart de sa population. La grande majorité a été exterminée dès l'été 1941 dans les environs de la ville. À la différence de nombreux autres lieux de culte transformés en entrepôts pendant la période soviétique, la synagogue, elle, reste toujours ouverte pour les survivants de l'Holocauste. Voldemars guide les touristes et leur explique l'histoire juive de la ville.
Dans les années 60, j'allais à l'école primaire et je passais tous les jours dans cette rue, devant la synagogue, et j'entendais les hommes réciter leurs prières.
C'est avant la chute de l'Union soviétique que la synagogue tombe en ruine, quand les juifs sont autorisés à quitter le pays pour Israël. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 54. La rénovation de la synagogue a été possible grâce à des fonds européens et norvégiens. Natalia Yopatova a chapeauté le projet.
Notre but était aussi de faire vivre l'histoire juive de la ville. Nous avons créé une base de données pour dresser la liste des personnes juives qui vivaient autrefois à Rēzekne. Elle compte aujourd'hui de nombreuses familles. Tout le monde envoie des photos de sa famille et de ses amis.
Une petite exposition interactive sur le Rēzekne juif est installée à l'étage réservé autrefois aux femmes. Plusieurs milliers de touristes ont déjà visité la synagogue et autour, des cafés et des restaurants ont maintenant ouvert et proposent des plats juifs.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 TU.